Bonjour à tous et à toutes, au micro Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, aujourd'hui à Tel Aviv, c'est une entreprise chinoise qui construit le nouveau tramway. Cette même entreprise a signé un contrat de 3 milliards de dollars pour développer un réseau de trains à grande vitesse en Iran. Au Soudan et en Éthiopie, les sociétés chinoises achètent des terres et construisent des barrages. Même chose en Égypte. La Chine est aussi devenue le premier partenaire commercial de l'Arabie Saoudite et pas seulement pour le pétrole. La Chine a pris racine partout en Afrique. Est-elle en train de s'implanter durablement au Moyen-Orient? Dans cette région du monde, son influence semble demeurer purement commerciale. Cependant, à terme, on peut facilement extrapoler que la deuxième puissance mondiale tienne à y jouer un rôle politique majeur pour préserver ses intérêts régionaux. Pour répondre à ces questions stratégiques, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui David El-Khaim. David El-Khaim est analyste au Centre français de recherche sur le renseignement. Il est actuellement basé en Corée, où il mène une collaboration sur la région Asie. Il a publié cette année « Une histoire des guerres d'Israël ». C'est un ouvrage qui est publié chez Taillandier. Alors, bonjour David El-Khaim.
Bonjour Ozzy.
Alors, dites-nous, est-ce que la Chine joue un rôle vraiment prépondérant dans l'économie du Moyen-Orient? Et comment cela se concrétise? Quels sont les pays où les investissements sont importants de sa part?
Alors, on ne peut pas encore parler de rôle prépondérant, parce que l'émergence de la Chine et l'apparition de l'influence chinoise dans cette région est quand même assez récente. Parce que évidemment, la Chine n'est que, si on considère que son développement économique a commencé avec Deng Xiaoping, c'était à la fin des années 70, donc elle est que 30 ans après le début de son développement économique. Donc pendant une première phase qui a duré assez longtemps, elle s'est concentrée sur son développement interne. Et elle n'est rentrée dans une phase d'expansion internationale, que assez récemment. Donc concrètement aujourd'hui, la politique chinoise dans la région du Proche-Orient, elle est autour de deux axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle la sécurisation des matières premières. Parce que évidemment, pour se fournir en énergie, se fournir même en matières premières agricoles, comme vous le soulignez, la Chine a besoin d'acheter des hydrocarbures elle a aussi besoin d'importer énormément de matières premières alimentaires. Donc elle a noué des partenariats qui sont pour l'instant essentiellement des partenariats commerciaux avec ces pays-là. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que une des cartes qu'elle essaye de jouer, c'est que c'est un pays du Sud, comme on dit, et qu'elle a les capacités technologiques maintenant pour réaliser des grands projets d'infrastructure. Là, elle bénéficie, d'un petit avantage comparatif, c'est que les Européens et les Américains, compte tenu de certaines règles qui s'imposent eux-mêmes ou que les institutions internationales leur imposent, eux, ils sont obligés un petit peu, de vérifier l'impact social et politique et écologique des constructions qu'ils font. Ça, c'est des contraintes que, pour l'instant, la Chine ne s'impose pas. Donc, notamment en Afrique, elle fait uniquement du business et s'il faut financer des infrastructures pour des dictateurs, ça lui pose pas de gros problèmes. Et ça,
est-ce que Trump va imposer ça aux Chinois?
Alors ça,
il l'a imposé au Canada et aux Européens, est-ce qu'il va l'imposer aux Chinois?
La guerre commerciale, théoriquement, dans la guerre commerciale que Trump a décidé de déclencher, l'adversaire principal, en théorie, c'est la Chine. Mais d'ailleurs, en parlant des États-Unis, évidemment, ce dont la Chine bénéficie aussi, c'est que donc, parallèlement à sa propre expansion internationale à elle bénéficie du moment américain aujourd'hui qui, c'est ce qu'on appelle le pivot américain vers l'Asie. D'accord. C'est-à-dire que pendant très longtemps, une des grandes constantes de la politique étrangère américaine, ça a été en gros de verrouiller le Proche-Orient parce qu'elle considérait que les États-Unis considéraient que c'était là que leur sécurité nationale se jouait. C'est quelque chose qui a commencé à être théorisé sous Obama et sous Hillary Clinton. C'est ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie. C'est-à-dire qu'en gros, les analystes américains maintenant disent notre principal problème de sécurité et le principal enjeu géopolitique pour nous, c'est de gérer la montée en puissance de la Chine, mais plutôt sur la rive pacifique. D'accord ? Donc, que ce soit les ressources militaires ou les ressources politiques ou les ressources diplomatiques, ils ont décidé de réorienter leur appareil vers l'Asie. Pour un ensemble de raisons, ils n'ont pas pu le faire aussi vite et aussi fort qu'ils auraient voulu. Alors les printemps arabes, la crise en Syrie, ils n'ont pas pu le faire autant qu'ils voulaient. Mais ça, c'est une tendance donc, qui a été inaugurée sous Obama et qui, par bien des aspects, est perpétuée par Trump. Donc il y a à la fois... Enfin, en fait, il y a un appel d'air dont la Chine bénéficie parce qu'elle-même, elle est dans une phase d'expansion internationale. Mais c'est pas le seul pays à faire ça. C'est un peu le même problème, enfin le même paradigme, j'allais dire, avec la Russie, qui en fait se dit, bah voilà, moi aussi maintenant je suis en capacité de revenir au Moyen-Orient, ça tombe bien parce que c'est le moment où les États-Unis sont désengagés, d'où la poussée de ces deux puissances dans la région.
Ok, pour revenir à la Chine, là on est passé du commercial au politique. Est-ce que la Chine va jouer un rôle au Moyen-Orient ? Est-ce que vous pensez qu'elle va contenter de gérer ses intérêts commerciaux, ou est-ce qu'à un moment elle sera obligée de défendre ses intérêts commerciaux et donc d'avoir des alliances et de mener et de suivre des objectifs politiques au Moyen-Orient pour être présente et défendre ses intérêts commerciaux?
Alors oui, c'est évidemment une constante. C'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir des investissements très lourds dans un pays, on surveille un peu ce qui s'y passe. On peut prendre par exemple les terminaux pétroliers en Libye, où en fait il y avait énormément de Chinois et énormément de travailleurs chinois. Donc quand non seulement la révolution a éclaté, mais que derrière il y a eu l'intervention internationale, les Chinois étaient vraiment pas contents parce que eux, au Conseil de sécurité, quand la résolution est passée, on leur avait dit vous inquiétez pas, ce sera uniquement une interdiction de l'espace aérien. Et en fait, ça a fini par être une intervention sur le terrain, ce qu'ils refusaient. Et c'est en ça que la Chine et la Russie, à chaque fois qu'il y a des propositions de durcissement ou d'intervention militaire au Conseil de sécurité pour régler le problème en Syrie, à chaque fois ils bloquent parce qu'ils disent vous me l'avez fait une fois. Sur la Libye, je ne veux pas qu'on me fasse la même chose en Syrie. Parce que le principe cardinal de la Chine, mais d'ailleurs des autres pays émergents comme on les appelle, donc Chine, Brésil, Russie et Inde, le principe cardinal pour ces pays-là, c'est le respect de la souveraineté. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tant que vous êtes dans vos frontières, que vous êtes un État souverain, vous avez le droit de faire un petit peu ce que vous voulez, y compris massacrer votre population. On voit évidemment pourquoi, c'est que la Chine, elle dit, si on commence à aller regarder ce que Assad fait aux Syriens, on va commencer aussi à aller regarder ce que moi je fais aux Tibétains ou ce que moi je fais aux Ouïghours. Donc ce principe-là, c'est à peu près la seule chose qui unit ces grandes puissances émergentes. Et la Chine, elle, à chaque fois qu'elle a se prononcé sur ces dossiers-là, c'est toujours sa position.
D'accord. Alors, on voit bien, mais alors pour la Russie, l'allié, c'est la Syrie. Pour les États-Unis, l'allié principal, c'est l'Arabie saoudite. Pour la Chine, au Moyen-Orient, quel est le pays du Moyen-Orient sur lequel elle peut s'appuyer ou sur lequel elle veut soutenir ?
Pour l'instant, il me semble qu'elle a pas décidé de mettre tous les œufs dans le même panier. Elle a des très bons rapports notamment avec Israël, des rapports commerciaux, parce que là aussi ça correspond à quelque chose qui, côté israélien, pendant longtemps a été appelé la théorie de la périphérie, c'est-à-dire que Israël se disait, mes voisins immédiats, de toute façon, en tout cas à court terme, je vais avoir des problèmes pour nouer des vrais partenariats avec eux, donc il faut que, enfin, compte tenu des enjeux politiques, donc il va falloir que j'aille chercher des alliances dans le deuxième cercle. Donc le deuxième cercle, c'était par exemple les pays africains, à une époque c'était même l'Iran qui était le deuxième cercle, c'est-à-dire après les pays arabes, et maintenant Israël développe même des relations avec le troisième cercle, avec la Chine et l'Inde. Et en Chine et en Inde, ou en Thaïlande par exemple, qui est aussi un pays asiatique, la présence israélienne commence à être très très marquée. Et ils ont de très bonnes relations parce que là aussi, quelque part, ils font pas de politique, ils ont pas de contentieux de frontières, ils ont pas de contentieux civilisationnels, ils ont pas de frontières en commun, il y a pas de problème entre les deux. Donc, ils sont très contents de faire de la coopération technologique, de la coopération technique. Israël est content de prendre des marchés dans ces pays-là. Donc, c'est vraiment des choses qui se développent et qui sont profitables pour les deux. Mais à mon sens, la Chine, pour l'instant, elle a pas choisi, j'allais dire, un champion dans la région. Et finalement, c'est pas nécessaire de le faire. Elle a pas besoin de se dire, je vais tout miser sur un de ces pays. Elle, en fait, ce qu'elle espère, c'est que la situation se calme, que le climat soit propice aux affaires, et elle fera des affaires avec l'Arabie Saoudite, Israël et la Turquie sans aucun problème, puisqu'elle a pas de contentieux géopolitique avec ces pays.
Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a une position de la Chine concernant le conflit israélo-palestinien ? Est-ce qu'ils se sont déjà prononcés là-dessus ? Par exemple, au sein du Conseil de sécurité, pour tout ce qui est problème d'occupation, de colonisation, entre guillemets colonisation.
Alors, historiquement, évidemment, la Chine, notamment, elle est sous Mao, hein, c'était la puissance qui se prétendait le fer de lance de l'anticolonialisme, donc elle s'alignait beaucoup avec les pays arabes, et donc sans être nécessairement vraiment hostile à Israël, mais elle était quand même plutôt côté, elle était quand même plutôt côté pays arabe. Maintenant, quand on regarde sur les années un peu plus récentes, en fait, elle a une position très très mainstream, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut respecter les résolutions du Conseil de sécurité, il faut la solution à deux États. Mais, et elle éventuellement, elle dit à chaque fois, moi si je peux aider, si je peux jouer les entremetteurs, si je peux faciliter les discussions, je le ferai avec plaisir. Mais elle ne va pas très au-delà. Elle s'engage très fortement ni dans un côté ni de l'autre, parce que, enfin, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et tout ce qu'elle veut, c'est voilà, essayer de peser pour que la situation reste assez calme pour pouvoir faire des affaires. Mais elle n'a pas une position très très tranchée. C'est un peu comme la Russie d'ailleurs, hein, qui dit « moi je suis pour deux États ». Voilà, maintenant il n'y a plus beaucoup d'États qui disent autre chose de toute façon.
D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas la Chine qui va jouer un rôle de go-between entre Netanyahou et les Palestiniens un jour ou l'autre pour forcer la main à qui que ce soit.
Bah, j'allais dire, les Palestiniens, ils aimeraient bien, parce que depuis longtemps, ils considèrent que en fait, la position américaine est trop proche des positions israéliennes, ce sur quoi, on, enfin en tout cas, trop proche, je ne sais pas, mais très proche, ça, on ne peut pas leur donner tort. Et surtout, avec le dernier épisode de l'ambassade à Jérusalem, là, Abbas a carrément dit, ça y est, moi c'est terminé, je considère que vous n'êtes plus des arbitres neutres entre nous, donc je vais chercher d'autres parrains au processus de paix. Sauf que les Américains... ils n'ont pas du tout l'intention de le lâcher, et Israël n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une substitution des arbitres. Après, encore une fois, peut-être que les Russes et les Chinois peuvent faire passer des messages et peuvent éventuellement participer financièrement ou politiquement à la résolution du conflit israélo-palestinien, peut-être, on ne sait pas dans quel dispositif ça rentrerait. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur le conflit syrien, c'est différent, parce que là, la Syrie est carrément un acteur à part entière, ce que n'est pas la Chine. Hein. Mais sur le conflit israélo-palestinien, voilà. À court terme, je ne les vois pas se substituer aux États-Unis, notamment parce qu'Israël ne veut pas en entendre parler.
Alors dites-moi, est-ce que la Chine joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme? Et est-ce qu'elle a une position vis-à-vis de l'islam radical et du djihadisme? Parce que je crois qu'ils ont aussi quelques problèmes avec les Ouïghours, notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure.
Voilà, alors, les Ouïghours, pour faire une très brève présentation, c'est une population turque d'Asie centrale, j'allais dire, qui, en fait, est dans les confins chinois, ce qu'on appelle le Turkestan oriental. Ça représente quand même quelques millions de personnes. Autour de la ville qui s'appelle Urumqi, et la situation est presque un petit peu la même chose que ce qui se passe au Tibet, c'est-à-dire que progressivement il y a une politique de sinisation du pays, c'est-à-dire que la Chine construit des chemins de fer, développe des villes, et en fait elle fait pas que ça, en fait elle envoie des Chinois, comme on dit, des Chinois ethniques, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais des Chinois ethniques, c'est-à-dire des Han de l'ethnie dominante. Et ça suscite évidemment une résistance locale. Et à l'intérieur de cette population ouïghour, il y a aussi un islamisme radical qui se développe, mais pour l'instant, il est très minoritaire. Le problème, c'est qu'en l'absence de perspective politique, voilà, et une répression, la répression étant ce qu'elle est, on ne sait pas comment ça va dégénérer. Je conclue juste là-dessus. La Chine est à l'origine de la création d'un organisme qui monte en puissance et dont on parle beaucoup, qui s'appelle l'organisme de coopération de Shanghai, ouais. Qui est, dans lequel maintenant il y a aussi, il y a la Russie, l'Inde est rentrée, le Pakistan aussi, où en fait ils veulent co-gérer ces problèmes de sécurité et de terrorisme en Asie centrale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font sans les Occidentaux.
Voilà. D'accord, d'accord. Dites-nous rapidement, quels sont les trois héros des Chinois ?
Oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire que apparemment il y a beaucoup de dignitaires chinois qui sont très admiratifs des juifs, parce que en fait c'est trois juifs qui ont changé la vie de la Chine, enfin changé le destin de la Chine. Le premier juif qui a changé le destin de la Chine, c'est Marx avec le communisme. Le deuxième, c'est Einstein pardon, avec la bombe atomique, et le troisième, c'est Kissinger, qui a été l'artisan du rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Voilà, donc c'est
d'accord, d'accord. Eh ben, c'est amusant. L'émission se termine. Je remercie David El-Kaïm d'avoir répondu à nos questions sur le rôle de la Chine au Moyen-Orient.
Merci à vous.
Et je souhaite Shabbat Shalom à tous nos fidèles auditeurs. On se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne pour Chronique de la Paix.